Inconnu pour nous.
Monsieur Boubouk qui est devant vous, vous avez vu.
Monsieur Boubouk me fait peur.
Ben oui, un petit peu.
Pauvre Constance, mais Monsieur Boubouk est revenu en héros parmi nous car il a obtenu le Graal. Bon.
J'espère que vous n'allez pas me licencier quand même, hein. Non.
Je vais vous donner une prime.
Oh ah, je ne suis pas monté pour rien. D'ailleurs, il y a une grosse enveloppe. Ah bah ouais, Pascal, il y a une grosse enveloppe sur le bureau, c'est marqué Pascal Pro, je sais pas pourquoi.
Intéressant tout ça. On a la prime, ça y est, Monsieur Boubouk, qui a grandi sa richesse et qui a décidé de partir s'acheter avec cette prime un bateau.
Allez, à toutes.
À toutes, Monsieur Boubouk. Un qui aimerait avoir la prime, c'est Mickaël Poteau. Oui, Mickaël, allez hop, un petit compliment à Pascal pour toucher le pactole, malin.
Et puis, salut Mickaël Poteau, peut-être qu'il y a quelque chose à nous dire, parce que vous êtes bien discret aujourd'hui.
Je vous écoute avec passion et raison, cher Pascal.
Oh, certes, mais encore. Ouais.
Écoutez...
un peu faillot, hein.
Ah, oui, Mickaël Poteau. J'ai besoin de travailler, mon monsieur.
Et tout le monde veut venir dans l'émission, même notre ami le chanteur Dave, on lui manque. Hein.
Vous savez qu'on a passé une émission formidable, nous aussi, un jour avec Dave.
C'est vrai. On peut le refaire. Vraiment. C'est pas cher.
Mais non, mais c'était...
Pour ce que c'est.
J'irais bien refaire un tour, c'était formidable.
Un qui va vouloir nous éviter, c'est Jacques Vendroux. Jacques avait brillé par son pronostic concernant le PSG contre Barcelone, rappel des faits.
Vous voulez que je vous dise la vérité ?
Oui.
Je pense que le Paris Saint-Germain va être éliminé ce soir. Voilà, je vous le dis.
Cette fois, c'est fait ! Le Paris Saint-Germain va jouer les...
Alors lançons un nouvel épisode des pronostics de Jacques. Oh. Avec ce nouveau format, Jacques a dit quoi sur le quart de finale Manchester City Real Madrid?
Je pense City. Voilà, objectivement, pas la peine de taper à l'envers, je pense.
Voilà,
City.
Les matériels ont eu besoin des tirs au but pour se défaire du tenant du titre Manchester City.
Élimination de Manchester City. Vivement un nouvel épisode de Jacques demain. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson
Jacques
bleue.
Jacques a dit, c'est bon. Jacques a dit.
Chaque fois, je regarde Thomas Schnell.
Bonjour les amis, salut à tous. On va souhaiter une chose à d'autres bleus de performer aussi bien que les bleus d'Europe 1, les bleus et blancs de l'OM qui jouent ce soir.
Quelle transition, c'est un professionnel.
Qui joue ce soir.
Quel talent, bravo.
Bravo,
merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente nuit et vous donne rendez-vous à 11h sur Europe 1.
Aujourd'hui, vendredi, Pascal Pro recevra le chroniqueur mondain, qui est aussi le spécialiste de la royauté du groupe Canal+, Bertrand Dekkers. Voilà, si vous avez une question à lui poser, ou si vous voulez simplement faire un commentaire, ou même échanger avec lui quelques mots, eh bien, vous pourrez nous appeler au 01 80 20 39 21. Laissez bien un message avec vos coordonnées pour que l'on puisse vous rappeler. 01 80 20 39 21. Tout de suite, la beauté du lien familial à travers la chanson d'Olivia Ruiz, Le sel. Et ensuite, on sort les épices avec Valérie Darmon qui parfume nos nuits de ses précieux conseils. Voilà, ce sera la libre antenne en nouvelle diffusion sur Europe 1.
Quand tout fout le camp, que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quitte, que je me cache sous la table, que mes heures se délitent. Il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel. Il ne reste que la torpeur quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige. Il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment. C'était Olivia Ruiz sur Europe 1. Olivia Ruiz qui a récemment confié dans un entretien avoir vécu deux épisodes traumatiques au début de sa carrière. Une soumission chimique par l'un de ses collaborateurs. Peut-être avait-elle ingéré quelque chose à son insu. En tout cas, elle dormait et quelqu'un se trouvait à ses côtés lorsqu'elle s'est réveillée, en précisant qu'elle avait eu de la chance de ne pas être suffisamment assommée pour pouvoir se défendre. Et puis dans cet entretien, elle fait aussi référence à une tentative d'agression lorsqu'elle avait 17 ans par un chef d'orchestre qui avait pour habitude d'embaucher de jeunes chanteuses. Voilà, c'est tout à fait le genre de sujet que l'on pourrait entendre dans la libre antenne d'Europe 1. En tout cas, tous les sujets sont abordés, il n'y a pas de tabou. Pour vous accueillir, Olivier Delacroix du lundi au jeudi, ou encore Valérie Darmon pour la fin de semaine. Valérie que nous allons retrouver dès maintenant. Je rappelle que la libre antenne, c'est de 22h à 1h du matin, 7 jours sur 7, et que vous pouvez nous joindre au 01 80 20 39 21.
Bonsoir Nicole.
Bonsoir, j'écoutais la chanson, on parlait des copains d'abord. Je crois que c'est important dans la vie, il me semble.
Et oui, c'est bien pour ça que j'ai rebondi derrière en disant c'est un petit peu vous, un petit peu nous. Là, on est un petit peu entre copains, en tout cas entre bonnes relations, dans un beau cercle de la libre antenne. Et ça fait du bien parce que les copains, c'est important parce que c'est de l'entraide aussi.
Oui, et je voulais vous dire, parce que c'est important ce que vous dites, votre émission, l'émission qui est sur Europe 1 tous les soirs, vous êtes là pour nous écouter, c'est vrai, on est là pour raconter nos histoires, c'est vrai aussi, mais on a besoin de ça, on n'a pas ça tous les jours, on sort dans notre village, les gens n'écoutent pas, ils n'écoutent plus comme ils écoutaient dans le temps. Voilà ce que je voulais dire.
Alors souvent, ils ont moins le temps. Et c'est vrai que des gens qui écoutent vraiment et qui surtout entendent ce qu'on a à dire, ils sont peu nombreux.
Souvent,
vous remarquerez que les gens parlent souvent d'eux. Et souvent, ils n'écoutent même pas. Regardez, faites le test. Vous croisez quelqu'un, vous dites « Bonjour, ça va ?» Mais la personne, elle va continuer. Elle va à la limite dire « Bonjour », mais elle va continuer son chemin. Elle ne va pas répondre au « ça va ».
C'est vrai. Moi, je sais pas pourquoi, je fais pas exprès, hein. Quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, je regarde déjà les gens parce que j'habite un petit village, je veux savoir qui c'est, y a plein de nouvelles personnes tous les jours, et de les regarder en face, on me dit bonjour. Alors un jour, j'ai dit, pourquoi ? Vous me dites, bon, on se connaît ? Alors il me dit non, puis voilà, et c'est comme ça qu'ils arrivent à parler avec les gens. Parce que j'insiste, c'est vrai que j'aime bien regarder les gens, parce que j'aime bien qu'on me regarde, donc voilà.
Bah, je trouve ça bien, mais je pense que c'est aussi parce que vous vivez, comme Jean à l'instant nous l'exprimait pour lui aussi, dans un village.
Sûrement.
Et c'est peut-être plus facile à Paris, je pense que si on est trop regardé,
oui.
On va, ou dans n'importe quelle grosse ville de France, peut-être qu'on va se sentir un peu agressé. On en parle souvent dans la libre antenne aussi. Donc il faut trouver le juste milieu.
Bah, moi, je ne sais pas faire. Moi, je suis plutôt espagnole que française. Bon, je suis une Française, mais moi, j'ai tellement besoin d'aller vers l'autre. Pas chez les gens, mais parce qu'ici, moi, où j'habite, c'est chacun pour soi. On se connaît, on va rester 3 heures dehors, même sous la pluie. Bon, je vais pas quand il pleut, mais on va pas. Les gens ne se. Pourquoi on n'arrive pas à rentrer chez les uns et les autres ? Moi, comme on ne me fait pas rentrer, pourquoi je vais faire rentrer ? je veux pas rentrer chez moi non plus.
Oui, après on n'est pas obligé de rentrer chez soi parce que c'est un jardin secret, on ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi, mais en tout cas un bonjour, un au revoir, un sourire, un regard, ça c'est peut-être aussi, on parlait tout à l'heure d'humanité avec le très beau témoignage de Frédéric, bah, c'est peut-être un premier pas, et aujourd'hui c'est important d'exister dans le regard de l'autre. Je n'ai pas dit assujetti au regard de l'autre, hein, loin de là. J'ai dit exister parfois dans le regard de l'autre, parce que nous sommes quand même des êtres sociaux. Hein. C'est ça qui nous différencie.
Je pense, oui. Donc, je vais parler de choses pas très marrantes.
Oui. Attendez, déjà, vous habitez dans quelle région, Nicole, si vous voulez bien nous le dire?
Je suis en Charente.
En Charente.
Peut-être pas loin de Cognac, si vous connaissez Angoulême.
Ah oui, près de Saintes, près de Royan.
Je suis un peu loin. Mais en plus, il vaut mieux parce que là-bas, c'est inondé. Alors, il vaut mieux pas que ça là-bas.
Très, très belle région, les Charentes. Hein.
Ouais.
Très, très belle
région.
C'est
très beau. Moi, j'habitais Bordeaux pendant longtemps, puis je venais souvent à Saintes parce que, bon, Cognac, c'est différent. Mais Saintes, c'est très joli, ce coin. Moi, j'aime beaucoup. Et j'allais, il y avait une guinguette au bord de la Charente et on allait danser.
Ah.
Et maintenant, il n'y a plus de... Tout ça, ça m'embête. Pourquoi ça s'arrête, tout ça? Je ne sais pas si à Paris, c'est pareil, mais nous, dans nos petites régions, on a encore des thés dansants dans les salles des fêtes, ou dans les salles souvent des écoles où ils font du sport, du hand, du basket. Alors, ils enlèvent tout ça et puis ils mettent les tables pour qu'on puisse aller danser.
Oui, bah c'est une très bonne initiative parce que ça crée du lien. Et comme beaucoup de personnes se sentent seules, au moins on peut rentrer en connexion. Et c'est important. Mais vous faites quoi en Charente? Alors vous faites quoi et vous avez quel âge, Nicole?
Moi je suis vieille, j'ai 68 ans.
Bon, c'est pas très vieux, c'est pas très vieux.
Non mais je sens sur mes épaules, c'est plus comme j'avais 30 ans, 50 ans. Je marche beaucoup, donc ça me fait du bien.
Voilà. Vous êtes à la retraite?
Je suis dans un petit village où il y a un château. Comment?
Il y a un château. Et vous êtes à la retraite?
Oui, ça fait 6 ans, c'est 7 ans que je suis à la retraite.
Et vous vous occupez?
Moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de bouger, j'aime pas rester assise. J'ai voulu, il y a 15 ans en arrière, donc j'étais bien plus jeune, rentrer dans un club du 3e âge. Je suis restée parce que j'ai dit quand même, on ne peut pas rentrer et sortir. Mais j'ai joué, il y avait des jeux, le Scrabble, je ne suis plus au cas. Et puis j'ai dit, bon écoutez, je paye ma cotisation parce que je suis venue, mais je ne suis pas sûre de revenir. C'était pas bien, ce n'est pas mon truc. Et même aujourd'hui, je suis plus âgée, j'ai pas envie d'être là. Bon, pourtant, c'est des groupes où les gens... Mais il y a toujours une qui est là, qui sait ce qui se passe chez ma voisine, tu sais ce qu'ils font. Alors les vieux, ça va. Et tous, ils sont malades, ils ont toujours un peu de travers. Moi aussi, je ne suis pas jeune, mais je n'ai pas un peu de travers. Même si j'en ai, je n'ai pas besoin de le dire à ma voisine. C'est ça qui m'embête.
Surtout, Nicole, vous démarrez le troisième âge à 62 ans. Je trouve que quand même, là, c'est rude ce que vous nous dites. Il y a quelques années en arrière, vous avez 68 ans, vous étiez dans un club de troisième âge. Ça fait peur.
Ben oui, mais moi, je peux pas. Moi, j'ai toujours travaillé dans un restaurant. Il fallait bouger dans un bar. Il fallait tout le temps debout. Il faut toujours. Et je me retrouve. Si j'avais travaillé, je sais pas, à la sécurité sociale, n'importe derrière un bureau, je serais pas été bien. Il fallait que je bouge.
Oui. Vous bougez encore aujourd'hui. Vous marchez beaucoup, hein.
Je marche, je danse.
Ah.
Je vous écoute des fois le soir. Je crois que la semaine dernière, avec Robert, vous rappelez? Qui a appelé monsieur des Deux-Sèvres, qui est agriculteur.
Ah oui, l'agriculteur qui a perdu sa femme.
Voilà.
Qui est veuf et qui nous parlait de sa nouvelle compagne. Oui.
Ah oui, c'est vrai. Non, mais parce qu'on est en contact toutes les deux, grâce à vous.
Ah.
Et moi, il me fait rigoler. Là, il était avec moi aussi, avant que je vous parle. Mais il dit tellement de bêtises. Alors, je lui dis, je vais parler de vous, mais je ne vais pas dire les bêtises que vous dites, parce qu'à l'antenne, ça ne dit pas que je dis. Il m'a dit, je ne vous parle plus si vous dites quelque chose.
Mais quelle bonne nouvelle.
Alors, j'espère qu'il entend.
Mais bien sûr qu'il entend. S'il veut nous appeler, il peut nous appeler, Robert, hein, d'ailleurs. On a longuement échangé. Comme ça, on saura s'il a quand même dit à la dame à laquelle il devait dire qu'il n'était pas intéressé pour aller plus avant avec elle, s'il a fait le nécessaire. Mais
je ne crois pas, parce qu'il ne veut pas lui faire du mal. Mais il va lui en faire quand même à un moment donné, hein, obligatoirement.
Bah, de toute façon, bon, on ne va pas revenir sur son histoire, sauf s'il nous appelle, mais c'est vrai que c'est mieux que cette femme ne se fasse pas d'idées. Mais moi, j'aime beaucoup ce que vous nous racontez ce soir, c'est-à-dire que là, on est dans un exemple parfait où la Libre Antenne a rempli son pari, qui est que vous êtes en lien depuis. Ça fait une semaine que vous êtes en lien.
Oui. Il n'y a pas que lui, il y a monsieur le Michel qui est à Paris, sa femme est décédée, elle était espagnole, ça vous dit ? Alors, et on a parlé tous les trois un soir avec vous.
Est-ce que c'est le monsieur qui est non-voyant dans le 12e, Michel,
qui danse
et qui fait de la musique ?
Ah, qui danse, je ne sais pas.
Je crois qu'il danse aussi, il me semble. Hein.
Bon, je ne sais pas. Il est non-voyant, c'est sûr. Et on se parle et on se voit tout le temps. Et un jour, vous nous avez dit qu'il faudrait qu'on se rencontre parce que vous aimez bien les histoires qui se finissent bien.
Oui.
Mais non, mais là, bon, c'est un monsieur qui ne va pas prendre le train. Ça, c'est sûr, il n'y a que moi qui voudrais que je puisse y aller. Mais Paris, ça ne me dit pas grand-chose.
Ah ben, à un moment donné, il faut se donner les moyens, Nicole, quand même.
Non, mais attendez, à Paris, moi j'arrive, j'y ai vécu longtemps à Bordeaux, c'est tout petit à côté de chez vous, hein. Ça n'a rien à voir. Bon, c'était une grande ville pour moi, j'arrive à la campagne, où on est très peu, et je pense qu'en vieillissant, ou peut-être étant seule, je ne sais pas, moi j'ai peur de la foule, j'ai peur d'aller dans un métro, je connais pas le métro, je connais le tramway, parce qu'on a ça à Bordeaux maintenant, mais je connais pas tous ces... Et puis j'en ai peur. J'ai peur des gens, maintenant. Avant, non.
Ah, vous vous êtes renfermé sur vous-même à force de vivre dans une toute petite ville et d'être seul. C'est le danger, hein. Attention, parce que c'est souvent le danger qui menace les personnes qui vivent seules, hein, de se renfermer sur elles-mêmes.
C'est pas ça, c'est que j'ai eu des choses très très graves il y a quelques années et j'ai été aidée par des femmes des centres sociaux et on m'a dit est-ce que vous voulez repartir à Bordeaux ou vous voulez rester en Charente-Maritime, j'étais en Charente-Maritime à l'époque. Oh ben j'ai dit écoutez, bon on va à Angoulême si vous voulez, puis voilà, et puis c'est comme ça, j'aurais pu repartir à Bordeaux. Mais si je partais là-bas, j'ai dû vous en parler, je crois. J'ai vécu longtemps avec un monsieur qui avait un bar et restaurant, et puis ça a très mal fini. Alors il va mieux pas que je sois là-bas. Si je suis partie, c'est grâce à ça. Et puis ma maman, qui était dans le Midi, à Perpignan, qui est remontée sur Cognac, et bon, qu'on a toujours vécu à Cognac. Moi, j'ai vécu quand j'étais toute petite à Cognac. Voilà.
Bon, en même temps, c'est une très belle région. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand même, donnez-vous une chance de rencontrer Michel ou de rencontrer Robert. Si vous vous entendez bien par téléphone, ne restez pas dans du virtuel. C'est ce que je dis souvent à l'antenne. Bah, pourquoi ? Parce que c'est plus sympa d'être dans le réel quand même, non ?
Sûrement, mais moi j'en vois assez de monde ici. Non, mais ces gens, c'est vrai, il y en a un, on n'est pas là pour on écoute ce que l'autre dit. Mais on n'est pas là pour pleurer. S'il pleure, ben je l'écoute. J'essaie de lui remonter le moral. Mais c'est lui qui me le remonte plus que moi. Hein. C'est bizarre, ces gens, ces non-voyants. Ils ont, je sais pas, quelque chose que nous, on n'a pas. Qu'on voit, nous les voyons.
Ils perçoivent peut-être d'autres choses.
Alors, est-ce que c'est la de sentir quelqu'un ? Je ne sais pas, quand on touche quelqu'un, ça serait que nous, on ne touche pas. Moi, je n'ai pas l'idée d'aller toucher quelqu'un pour voir s'il va bien.
Peut-être l'intuition, peut-être au son de la voix. Tout ça, c'est des vibrations, c'est de l'énergie, hein, comme nous en parlait tout à l'heure Frédéric en parlant du Reiki. Tout ça, c'est l'énergie. Donc, et puis, c'est être attentif à l'autre. Quand on est attentif à l'autre, on perçoit les modulations de la voix, on perçoit les inquiétudes, l'anxiété, les angoisses et les grandes joies.
Est-ce que vous sentez quoi quand vous me parlez, quand on se parle?
Non mais je sens une femme, sens une femme gaie. Gaie.
Comment?
Je pense que vous cultivez la joie et l'énergie.
J'ai pas toujours cultivé comme vous dites. Hein. J'ai pas toujours. Je vivais avec quelqu'un qui était très jaloux. C'était même plus la jalousie, c'était une maladie. Je savais pas comment m'en sortir. Et un jour, moi j'ai pris la voiture un jour, j'étais voir ma mère, je suis restée des jours et des jours et des jours et des jours, puis j'allais pas voir que ma mère, puis il a dû venir me suivre, j'en sais rien, parce que comme il sait très bien où elle habitait ma mère, il pouvait très bien être là, mais j'allais voir ailleurs et puis ça m'a bien arrangé. Et quand je suis revenue, il avait mis la voiture en vente, vous voyez, et puis je pouvais plus sortir.
Ah, il vous a enfermé ? Non.
pas enfermée. Bah, j'étais dans une maison, j'ai toujours dit, une prison dorée. C'est-à-dire que j'avais des murs autour de ma maison, de grands murs. Et puis, doré, c'est parce que j'avais tout ce que je voulais, les maisons, les voitures, les, tout ce que je voulais. Mais j'étais pas heureuse. Et bien, j'avais un enfant, je me suis dit, si je pars, comment je fais? J'ai pas de diplôme. Je fais comment pour élever un enfant? Ben, j'ai accepté. Jusqu'au jour, il m'a mis dehors. Parce que j'ai pu accepter ce qu'il voulait me faire.
Au bout de combien de temps il vous a mis dehors?
Moi, je l'ai connu pendant 20 ans.
Au bout de 20 ans,
et j'ai perdu 20 ans de ma vie. Après, je le dis. Parce que... Et quand je me suis séparée, je ne savais même pas à côté de chez moi, à 10 minutes de chez moi, il y avait une salle de danse. Si j'avais su, j'aurais été danser. Même si je ne voulais pas, je m'en foutais. Je suis partie la première fois, j'ai été danser. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. Je rentre, je ne savais pas ce qu'il y avait. Et là, j'ai commencé à revivre. Et j'avais 50 ans. 50, 52 ans. Je peux vous dire que depuis, je revis bien.
Oui, vous voyez, je vous ai dit, je perçois une femme gay qui cultive l'énergie, mais la danse...
Aujourd'hui,
bien sûr, mais on apprend, on est là pour vivre une expérience. Parfois, c'est vrai que les expériences sont très dures, mais on n'a pas d'autre choix que de les traverser de toute façon.
C'est vrai. Et puis, quand on vit, avec ce qu'on entend en ce moment, j'ai vécu dans un pays où il y avait la guerre. Bon, j'avais 7-8 ans, je ne m'en rappelle pas. Mes parents ne nous parlaient pas de ça, mais il valait mieux vite partir. Vous devez savoir quel pays. C'est en 62 qu'on est rentré en France.
Alors, c'était en Algérie. Et... Vous étiez pieds noirs. Oui.
Oui.
Pieds noirs.
Et je crois que vos parents, ils sont pieds noirs, en fait.
Oui, c'est vrai aussi. On en a parlé avec Sylvia la semaine dernière, effectivement.
J'ai entendu parler une dame, puisque j'ai demandé si je pouvais avoir son numéro, puis on ne me l'a pas donné. Bon, c'est pas grave. Et puis j'ai entendu que vos parents étaient pieds noirs. Mais vous êtes vous née en France? Ça me regarde pas, mais...
Oui, on est à la radio, je veux parler de ma vie. D'autant que les auditeurs ne sont pas fans que les. Pour certains d'entre eux. Il y en a d'autres qui sont très, très, très gentils. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires d'auditeurs et d'auditrices qui sont très, 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 très bienveillants. Et Olivier et moi, on est très sensibles, donc on leur dit merci. Et puis pour les autres, il y en a certains qui n'aiment pas qu'on parle de nous. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de ma vie, ce n'est pas le sujet. Mais effectivement, Sylvia nous a appelé la semaine dernière pour nous parler. Oui. De cette fracture intérieure que représente la guerre d'Algérie. Vous êtes rentrée, vous aviez 7-8 ans, mais il n'empêche que vous avez quand même été marquée par l'histoire transgénérationnelle et intergénérationnelle de vos parents, forcément.
Sûrement. J'ai quelque chose en moi, pendant que je suis rebelle. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, je crie, parce que je ne sais pas me calmer. Alors vous dites que je suis gay, peut-être, mais il y a des moments, quand il y a quelque chose qui ne passe pas, ça ne passe pas. Et puis, avant, on me disait de me taire, alors je me suis tue, mais un jour, j'ai arrêté de me taire.
Oui,
et moi, c'est là que j'ai poussé...
Moi, je pense qu'il faut parler, mais il faut par contre avoir une parole impeccable, c'est-à-dire essayer d'avoir les mots justes. Voilà, mais il faut dire les choses, mais avec les mots justes. L'emportement ne sert à rien.
Mais je sais bien. Mais moi, j'ai rencontré encore quelqu'un, c'est par votre radio, je crois, enfin, je sais pas, un monsieur qui est à Tarbes. Il m'a raconté qu'une chose que je me rappelle, je vois les gens danser dans la rue, à Tarbes. Je peux vous dire que je vais y aller. Je suis loin de Tarbes, mais je vais me débrouiller pour aller voir les gens danser. Et puis je vais danser, surtout, plus.
Vous dansez quel type de danse? Danse de salon?
Les danses de salon, parce que mes parents dansaient ça, et je pense que c'est ça. Moi, j'ai jamais appris, mais si je danse sur un bon danseur, je peux faire des heures et des heures du cha-cha-cha, du Madison,
du tango,
Passo-doble. Ah, surtout ça, oui, c'est trop beau, ça.
Oui, c'est votre génération, le passo-doble aussi. Mais ça revient à la mode, les danses du salon.
Et j'ai des sœurs qui ont 80 à 90 ans, mais en 80 ans, encore plus elles. Et quand on se met toutes, parce qu'on est 5 filles, je peux vous dire, bon, on n'est plus que 4 maintenant, mais quand on se mettait les 5 à danser, eh ben, dis donc, c'était pas mal. Et c'est un truc qui est... Vous voyez, je suis tellement bien de vous parler, de parler de ça, parce que c'est pas ça que j'aurais dû vous parler, c'était de choses plus graves. Et ben, je crois qu'on va les laisser, puis je préfère rester sur ces bons moments que je passe quand je vais danser.
Sur de la joie et sur de la gaieté.
Oui.
Voilà, et du mouvement.
C'était pas ça que je devais vous parler.
Alors, de quoi vous vouliez nous parler? Je sais de quoi vous vouliez nous parler, parce que Juliette me l'a dit dans le casque. Vous vouliez nous parler et rebondir sur le témoignage de Nicolas de la semaine dernière sur les retraites.
Oui, sur les retraites, parce qu'elles sont petites. J'ai beaucoup travaillé, mais et voilà ce que je voulais dire. J'ai pas envie de dire ça, mais je vais le dire quand même. Je suis dans un appartement depuis 15 ans, et depuis 15 ans, je ne me chauffe pas. Bon, je suis pas dans l'Est, je suis pas dans les Alpes, c'est vrai. On a beaucoup d'humidité ici, mais je peux vous dire que depuis que je vis comme ça, je suis pas malade, je vais pas voir mon médecin très 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 souvent. Je sais pas si c'est à cause de ça, j'en sais rien. Mais je me suis bien habituée à ça, et quand je rentre chez quelqu'un qui a du chauffage, bah, je suis pas bien, parce que j'habite du froid. Je suppose qu'il y a plein de gens comme moi qui se chauffent pas. J'ai pas de voiture parce que j'ai pas les moyens non plus. Puis je me débrouille. Il y a des cars, j'ai tout autour de chez moi. J'ai des médecins, j'ai l'ophtalmo, j'avais un cardiologue à un moment donné. Bon, il y est plus, mais on va à 30 km, c'est pas grave, pour aller quand on a besoin de quelque chose de plus important. Comme j'ai tout, voilà.
Mais vous vivez avec quelle température chez vous, Nicole? Parce que c'est pas tout à fait normal.
Je fais la même température que dehors. C'est pas 10. Bon, en ce moment, non, parce qu'il pleut, alors donc il fait un peu plus chaud. Enfin, il fait moins, à part cette humidité qu'on a partout. Parce que la Charente, elle est encore sortie il y a très peu de temps, il y a 2 ou 3 jours. Ça fait que ça, elle rentre, elle sort. On ne sait pas si ça ne va pas s'arrêter. Il faudrait que ça s'arrête un peu un jour. Non, le Sainte, ce n'est pas la peine d'y aller parce que c'est inondé. Niort, pareil. Enfin, vous voyez, on est même dans ces régions qui sont
humides.
Un peu.
Arrosées.
Un peu loin, mais le jour que ça arrive ici, moi, étant au rez-de-chaussée, voilà, j'aurais plus qu'à prendre mes affaires, le peu que je pourrais aller partir.
Mais 12 degrés, c'est très très bas quand même en plein hiver pour une femme de 68 ans. Oui, bien sûr, par rapport à ce que vous avez
vu.
Oui, mais c'est pour vous doucher le matin, vous faites comment? 12 degrés, c'est...
Ah, ça, c'est vrai que c'est un peu... je me lave, tant que l'eau est bien chaude, c'est bien. Et je parlais de ça, j'ai qu'un cumulus, vous voyez, parce qu'il n'y a que ça pour avoir de l'eau chaude, hein, je ne peux pas avoir autre chose. Mais je fais attention. Je fais attention à l'eau. Depuis un an, je peux vous dire que les taxes dessus, il n'y a pas que moi, parce que c'est toute la France, les taxes qu'il y a sur l'eau, moi, je n'ai jamais payé autant d'eau. Ce n'est pas l'eau qu'on paye, hein. Ce n'est pas vrai. Hein. Oui. C'est tout ce qu'il y a à côté. C'est l'assainissement, c'est ceci, c'est cela. Moi, je ne sais plus quoi faire. Je vais faire mes courses à pied. J'ai une demi-heure de route. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Bon, quand il pleut, c'est pas agréable, mais j'y vais pas là, quand il pleut. Mais je pense que si tout le monde arrivait à faire ça, je peux vous dire que la France, elle passerait, ce serait beaucoup mieux. Je dis pas de ne pas chauffer, c'est pas ça que je demande, je dis. Mais qu'on abaisse un petit peu le chauffage pour certaines personnes. Moi, quand je rentre à la poste, quand je rentre à ma banque, quand je rentre dans plein d'endroits, les assurances, n'importe qui, ben, je peux vous dire que je me découvre, je suis obligée.
Parce que vous avez pris l'habitude, mais j'ai l'impression que vous relativisez, et c'est tout à votre honneur, mais c'est quand même les conditions de vie un petit peu difficiles de vivre à 12 degrés.
Pourquoi?
Vivre à 12 degrés comme ça, 24 heures sur 24, c'est un... Je sais pas.
Je suis dehors, je suis beaucoup dehors, je m'en vais, je marche beaucoup. Je marche, je vais voir des amis, je sors, ils ne le savent même pas, hein, comment je...
C'est parce que vous êtes au chauffage électrique, c'est ça? C'est pour ça que ça flambe,
mais ça
en fait.
Ça chauffe bien, je peux vous dire que quand ça m'est arrivé de le mettre, ça chauffe très bien. J'ai plus froid. Mais j'ai voulu le mettre des fois la nuit, parce que ça devrait être moins cher. Je peux vous dire que je l'arrête, parce que je ne peux pas. Bon, dans la chambre, c'est même pas la peine de le mettre, je ne le supporterai pas.
Vous avez combien de retraite, Nicole, si ce n'est pas indiscret?
1000 euros. Oui. Je viens d'avoir 50 euros ce mois-ci, un peu plus, ça fait 6 ans que je suis à la retraite, je viens d'avoir 50 euros en plus. J'irai pas loin. Avec moi, bon, c'est pas grave.
Vous n'avez pas de droit des aides?
Mais si, j'ai un petit le loyer, c'est pour ça aussi que je peux m'en sortir, hein, sinon je paierais 800 euros de loyer. Bon, si je payais 800, c'est je gagnerais un petit peu plus, hein. Mais j'ai des aides, vous dites surtout ça, là. Et puis ma mutuelle aussi. Voilà.
Oui.
Même des fois, je me dis, quand je vais rarement chez le médecin, je vais rarement, bon, à part, il y a des radios, il y a des prises de sang à faire de temps en temps, je me demande si je vais continuer à payer ma mutuelle. Puis le jour où je ne la paierai pas, c'est là qu'il y aura une grosse catastrophe qui arrivera.
Vous êtes obligé de faire l'impasse. Vous êtes obligé de faire l'impasse sur la mutuelle, ou en tout cas vous vous interrogez. Oui. Donc mais sur les soins de santé, hein, comme beaucoup de Français, hein, sur les soins de santé.
Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais je regarde pas ce que je mange. Voilà. Je pense que j'arrive. Il y a des choses que je peux me passer, mais ça, je me passerai pas.
Oui, vous avez des priorités. Vous préférez que le poste alimentation est important par rapport au chauffage, par exemple. Là, vous fonctionnez par priorité. Donc l'inflation, vous l'avez pris de plein fouet.
Oui, moi je pense depuis longtemps, mais là depuis un an, c'est ça va faire au mois de mars là que ça va augmenter l'électricité et puis l'eau. Moi j'étais à je sais pas 50 euros tous les deux mois, là je suis à 120 euros en eau ou en électricité. Comment vous voulez qu'on y a... Et je fais attention à l'eau, je jette pas mon eau n'importe comment. Je fais attention. Qui en France peut dire ça? Mais tous ceux qui peuvent plus, il y en a peut-être qui se lavent plus aussi. Enfin, j'en sais rien.
En tout cas, il y en a beaucoup qui ne vont plus chez le dentiste, qui font vraiment des impasses sur des soins importants, hein, parce que effectivement, ça ne suffit pas.
Vous vous rendez compte au prix que ça coûte ? Moi, j'en ai un. Ça fait 3 ans, parce que ma dentiste était partie, et ça fait 3 ans. Ben, au moment, enfin peut-être un peu plus, au moment du confinement, j'ai rencontré ce monsieur. Il fait rien. Alors, j'ai un dentiste, c'est très bien. Il regarde mes dents et l'autre jour, il m'a dit « Bon, on va faire un détartrage. » J'en ai pas besoin, mais c'est juste pour qu'il trouve à donner quelque chose à la Sécurité sociale, comme quoi je ne suis pas fait. Enfin, moi, je ne vois pas autrement. Hein. Et il ne veut pas. Une fois, ça fait un an, c'était un dimanche, je vais lui dire « Vous me prenez, j'ai quelque chose dans les dents, je sais que ça ne va pas. Non, je ne peux pas vous prendre. » D'accord, ben, dimanche, j'ai appelé le commissariat, et on m'a dit aller à tel endroit. Vous pourrez trouver, j'ai dû aller à Angoulême, me faire arracher la dent, parce qu'il devait me la soigner. Et quand j'ai apporté le papier, ils me disent, tiens, je vous ai arraché la dent. Ah bon, c'est vous qui me l'a arraché? Mais c'est là qu'on arrive à se demander, mais c'est quoi ces gens? Je lui apporte le papier, il voit le nom de la personne, il me répond, je le connais. Vous pouvez le connaître, mais c'est lui qui me l'a enlevé, et un dimanche. Et c'est pas son boulot, parce que c'est pas son travail. Même si c'était un dentiste, il faisait pas ça. Mais il était de garde, donc il l'a fait. Et très bien. Je vais pas lui dire mieux que lui, mais comment, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait quand les gens ne veulent pas s'occuper de vous? Dites-moi. J'ai un dentiste pour dire qu'il faut aller voir un dentiste de temps en temps. Je sais pas, moi j'espère que les gens ils entendent, ils écoutent ce que je dis. Je suis pas la seule, sûrement. Mais tous ces gens très riches, parce qu'il y en a en France, qui fassent attention à ce qui se passe aux les tout petits.
Oui, d'ailleurs, l'industrie du luxe marche très très bien, ce qui est complètement paradoxal. Hein. Donc les fossés se creusent en fait, les fossés se creusent.
Moi je pensais que ça marchait même plus, vous voyez tout ça, puisque vous dites que ça marche, je pensais pas que je pouvais...
Le fossé se creuse vraiment, et surtout, comme le disait Nicolas, ben, les retraités sont les grands oubliés, hein.
Oubliez, vous savez, on va arriver en jour, j'entendais là les agriculteurs qui se suicident. Pourquoi les personnes âgées ne vont pas faire? Celui qui arrivera plus, qui ne pourra plus manger, qui ne pourra plus... Moi, je peux, si je veux, aller voir l'épicerie, comment on appelle ça?
Solidaire.
Solidaire. J'ai été voir une assistante sociale il y a quelques années. Vous savez ce qu'elle a dit? Parce que j'ai demandé, vous pouvez m'aider à payer ça? Elle me dit, mais comment vous voulez que vous êtes? Vous n'avez pas de dette. Vous avez juste ça. Attends, une assistante sociale qui me dit ça? Elle veut plus voir, mais moi, j'ai pas envie de la voir non plus. Hein. Et comment on fait? Il faut avoir 3 000, comme je lui dis, il faut avoir 3 000 euros de dette pour faire quelque chose. Mais moi, je veux pas avoir 3 000 euros de dette. C'est pas possible. Moi, je pourrais plus dormir.
Oui. C'est une bonne nouvelle. Puis déjà que vous n'ayez pas de dette.
Vous avez 500 euros pour jeudi, mais pas 3 000 euros. C'est pas possible.
Et l'épicerie solidaire, ou la banque alimentaire, vous ne voulez pas?
Non, j'ai honte.
Eh oui, c'est ça.
J'ai honte. Moi, j'ai toujours travaillé énormément. En plus, j'avais un restaurant, donc j'avais de quoi manger tous les jours, c'est vrai. Même si des fois, il en restait, des fois, il en restait pas. Je préparais chez moi aussi. Mais parce qu'à l'époque, je vivais bien. Si j'avais pas eu un homme qui était... l'argent, c'est important, c'est vrai, mais qui aimait les femmes, parce qu'on ne peut pas aller contre ça, hein. J'ai connu ça avec mes parents. Mon père, c'était un... Il faisait même des gosses à droite et à gauche. Hein. Alors, vous savez, quand vous vivez dans... Je ne sais pas si on refait la même chose après, mais moi, j'ai toujours vu ça. J'ai vu mes parents se battre. J'ai vu, en grandissant, on n'a pas quand même... Moi, il manquait un père à la maison, même s'il était là de temps en temps. Moi, j'aurais aimé... Vous savez, quand j'ai rencontré cet homme, qui suis resté 20 ans, c'est quelqu'un qui avait quand même 13 ans de plus que moi. Donc, je ne pense pas que ce soit un homme que je cherchais, c'était un père. Oui. Et ça, j'en suis sûre, parce que souvent, les psychologues, c'est ce qu'ils disent. On cherche toujours un père quelque part. Et
sauf quand on a travaillé sur soi quand on est jeune, et du coup, on évite de renouveler un petit peu les schémas. Mais pour en venir à ce que vous nous expliquez ce soir, Nicole, c'est-à-dire la difficulté à finir le mois correctement, puisque vous ne vous chauffez pas
d'ailleurs. Ah non, je l'ai fini bien. Il n'y a qu'une chose, c'est que je ne peux pas payer plus.
Voilà, c'est ça. Vous êtes ric-rac.
Même avec 1000 euros, je me débrouille. Je ne regarde pas. Bon, ben, si un jour, là, il faudra que je change mes verres de lunettes, on va me dire, vous changez les lunettes? Non, je ne ferai que les verres. Il y en a quand même pour très cher. Alors, ça commence... c'est ça qui me... S'il faut aller faire des prêts pour des verres de lunettes, je ne sais pas si ça peut exister, sûrement. Moi, je vais faire un prêt pour quelque chose d'autre, mais pas ça, pour une maison, pour une voiture, mais pas pour des verres de lunettes.
Ben c'est important.
J'espère que les gens vont vous appeler parce que ça va faire bouger les gens.
On a Mélanie qui nous dit je ne chauffe pas ma chambre entre 22h et 9h du matin, sinon j'ai des bonnes migraines. Donc là, c'est une question de santé. Et on a Coralie qui dit que beaucoup de dentistes proposent un détartrage, même si ce n'est pas nécessaire. Tout le monde accepte, peut-être sans savoir que cet acte reste à la charge du patient.
D'accord.
Voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas, Nicole, c'est que vous l'avez dit, hein, j'ai honte, effectivement. On ne peut pas être et avoir été. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est celle qui l'emporte dans votre vie. Et si vraiment, à un moment donné, il y a trop de difficultés, eh bien, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Si aujourd'hui, vous allez de temps en temps, parce que parfois, il y a des bons produits à la banque alimentaire ou à l'épicerie solidaire, ou il y a même des... moi, dans la ville, dans la banlieue parisienne où j'habite, il y a un endroit même où ils vendent dans une épicerie tous les produits qui ne sont pas vendables dans les grandes surfaces.
Il y a toujours
à des tout petits prix ou des fruits qui sont un peu qui sont un peu moches, un peu abîmés, etc. Elle ne désemplit pas, cette épicerie là.
Donc, mais ça m'étonne pas. Hein.
Voilà. Donc pourquoi pas? C'est ça que je suis en train de vous dire. Pourquoi pas?
On a un marché. J'y vais au marché aussi, je prends.
Ou aller voir.
C'est vrai qu'à la fin du vers 10, vers 11, midi, 1h, c'est vrai, ils veulent pas tous emporter leurs trucs alors qu'ils les revendent à des prix bien, bien intéressants. Oui. Et je suis à 3 minutes.
Voilà, les fins de marché sont importantes. On a Sarah qui s'interroge aussi sur, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un enfant et vos sœurs. Est-ce que la famille peut vous aider?
Non, parce que ma fille d'abord, elle m'a volé l'argent à ma banque, je ne sais pas comment elle a pu. Ça se peut pas, mais elle a fait. Mes sœurs, ma maman est décédée, tout le monde, c'était qu'une histoire d'argent. On n'était pas comme ça. Hein. Pourtant, on est espagnol, on était très proches. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais pas. Pourtant, je suis à quoi? À 1 heure des unes et des autres. On n'est pas très loin. Elle ne va plus me voir. Moi, je ne connais même plus. Hein. Je ne sais même plus si la femme, je m'en fiche. Je vis. Et puis, j'en ai une qui a une grande maison, qui n'arrive pas sûrement à payer. Bon, elle est veuve. Elle ne doit pas toucher énormément de retraite. Mais on pourrait s'entraider. Moi, je lui dis, je suis plus jeune que toi. Je peux faire certaines choses. Ben non, c'est chacun chez soi. Et puis, voilà. Et elles savent très bien comment je vis. Hein. Elles, comment je vis, elles le savent. Bon, enfin, voilà.
Bon, eh ben, écoutez, Nicole, je vous souhaite plein d'énergie que vous avez déjà. Merci. Donc, je vous en envoie encore plus. Tenez-nous au courant là de comment s'évolue avec Robert ou avec ou avec Michel. Voilà, on a Anne.
Je vais l'appeler Robert parce qu'il doit pas dormir, doit m'écouter. Je vais lui demander s'il m'a bien entendu.
Je pense qu'il vous a entendu. On a Anne qui rajoute qu'elle aussi chez elle cet hiver elle a entre 7 et 12 degrés et qu'elle est loin d'être la seule. Voilà. Et c'est effectivement la dure réalité des Français, d'une partie des Français aujourd'hui. Hein.
Oui, mais qu'est-ce que ça va être demain? Parce que là, c'est aujourd'hui, on est en 2024. Ça va être quoi en 2030? En 2040? En 2050?
Soyons déjà aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Soyons déjà aujourd'hui.
s'il y a des gens qui veulent me parler, je laisse mon numéro. Voilà,
d'accord,
téléphone.
Très bien. Bah, ils l'ont entendu. Allez. Merci Nicole, bonne soirée à vous. Merci d'avoir été avec
merci
nous ce soir sur Europe 1.
Merci à vous de faire tout ce que vous pouvez pour nous. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
À écouter d'autres témoignages de la Libre Antenne sur europe1.fr et l'application Europe 1. Et pour échanger avec Valérie Darmon, eh bien on vous donne rendez-vous ce soir à partir de 22h pour la joindre 01 80 20 39 21. À suivre le meilleur de Sophie et les copains avec Sophie Davant et sa bande. Et pour la musique, Grand Corps Malade avec un hymne au temps présent. C'est aujourd'hui que ça se passe.
Au quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et patient. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant, sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Le présent est précieux, l'inertie l'en est dit. Si l'espoir se permet quand l'élan se transmet, honnêtement faut y aller, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de se craindre, d'accepter de se joindre? Puisque la vie est un jeu plutôt interactif, essayons tous ensemble d'en faire un terrain de kiff. C'est dès aujourd'hui qu'on peut changer les choses, qu'on peut scander nos causes, qu'on ose et qu'on propose. Il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre. On a tous un rôle à jouer et quelques comptes à rendre. Le climat, le partage, solidaire, être heureux. Soyons à la hauteur, ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce qu'on pensait faire demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour que nos actes se reflètent dans un futur apaisant. Avec ma DeLorean, c'est retour vers le présent. Y a pas beaucoup de temps, mais y a encore de l'espace pour deux, trois trucs importants. C'est aujourd'hui que ça se passe.
De choisir ses envies et l'envie de choisir ses urgences. Voilà donc le message de Fabien Marceau, Grand Corps Malade, si vous préférez, avec ce titre que l'on vient d'écouter à l'instant sur Europe 1. Nouvel extrait de son dernier album en date, Reflet, sorti en octobre dernier, et ça s'appelle « C'est aujourd'hui que ça se passe ». Ça s'est passé un 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris brûlait. La France entière et le monde assistaient impuissants au drame, et 5 ans après, eh bien, Notre-Dame de Paris est sur le point de rouvrir ses portes. Bon, il faudra patienter encore quelques mois, mais en attendant, que diriez-vous d'une immersion dans notre podcast Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance, autour de témoignages et d'archives sonores exceptionnelles.
Et si on tentait une opération et qu'on n'y arrivait pas parce qu'il y avait un effondrement prématuré, il y aurait eu, entre 30 et 50 cercueils de sapeurs-pompiers dans la cour des Invalides, quoi.
Notre-Dame de Paris, du brasier à la Renaissance, un podcast inédit à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, le site et l'application Europe 1. Cette semaine, toute l'équipe de Sophie et les copains est en vacances. Et oui, c'est donc un florilège des meilleurs moments de l'émission que nous vous offrons en attendant le retour de notre grand jeu en direct dès lundi prochain. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie et bonjour les copains.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Isabelle qui nous appelle de Bretagne.
Bretagne.
Isabelle qui fait quoi dans la vie ?
Alors je suis éducatrice spécialisée. Et alors, je travaille en protection de l'enfance.
D'accord. Bravo. Vous êtes passionnée par votre métier, mais au fond, vous auriez aimé faire autre chose. Quoi donc ?
Plein d'autres choses. Mmh. Avoir plusieurs vies dans une même vie.
Vous avez quel âge ?
Je viens de fêter mes 50 ans.
Il n'est jamais trop tard pour devenir une artiste, entre autres. Hein. C'est ça que vous auriez aimé ? Vous auriez aimé faire quoi ?
Bah, alors, non, on ne peut pas l'égaler. J'allais dire une deuxième Florence Foresti, mais ce serait compliqué.
Ah, l'humour.
Ah ouais,
C'est l'humour. Chouette, hein.
Pourquoi vous faites des sketchs devant vos amis ?
Ouais, je me suis toujours un peu déguisée. J'aime bien être sur le devant de la scène. Ouais, la scène, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu.
Isabelle, je sais que vous écoutez Europe 1 depuis presque toujours. Hein. Depuis quel âge ?
Toujours. Depuis mes 20 ans, ça fait 30 ans.
Eh bien, ça tombe bien parce que nous allons jouer avec les archives d'Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur Europe 1.
On a décidé de jouer avec les archives d'Europe 1 et de mettre à l'honneur notre Michel National. Deux grands noms vont se faire face. Nous sommes en 1978 et Coluche reçoit dans son émission « On n'est pas là pour se faire engueuler » Michel Sardou. Entre l'humoriste plutôt étiqueté à gauche et le chanteur plutôt étiqueté à droite, il n'y a pas une entente évidente. Écoutez.
On dit souvent ça, qu'elles sont tristes, les chansons. C'est vrai, dans l'ensemble, elles sont mélancoliques.
J'en ai des très drôles.
Oui ?
Oui.
Allez, des noms.
Non, bah, j'ai la folle du régiment, j'habite en France, j'ai des choses comme ça. J'ai un truc qui s'appelle 6 milliards 900 millions, qui est pas mal.
Oui. Mais dans la vie, t'es plutôt gay, toi.
Bah, ça dépend avec qui je suis, tu vois.
Oui.
Il y a avec des fois, toi, je suis très gay, par exemple.
Ah bon ?
Intérieurement, mais je le cache, je suis très timide.
Ah oui.
Alors, le sujet va revenir sur la table. Les chansons de Michel Sardou seraient tristes. Coluche va le dire à nouveau, juste après avoir écouté « Je vole ». Et quelle va être la réponse de Sardou sur cette chanson ? Il va lui répondre « Tu peux pas juger, tu parlais pendant la chanson. C'est pas parce que je ne souris pas que la chanson est triste, ou la chanson est triste, mais ma joie est intérieure. » Alors, qu'est-ce qu'il a dit selon vous, Isabelle ?
Ils n'ont pas l'air de s'entendre très bien, effectivement. Moi, j'aurais dit la une, non ? Ouais.
La une ou la trois ?
Ou la trois, ouais.
Qu'est-ce que vous pensez, Isabelle ?
Je peux reprendre les propositions ?
Oui, bien sûr. « Tu peux pas juger, tu parlais pendant la chanson. C'est pas parce que je ne souris pas que la chanson est triste. La chanson est triste, mais ma joie est intérieure.
» Voilà, un, je pense.
Mais c'est évident, Isabelle.
Vu l'ambiance entre les deux, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est un ou trois.
Donc je bloque la réponse.
Comme ils étaient grande gueule tous les deux.
Ouais. La une, Isabelle.
On écoute la réponse.
Dis donc, il y a quand même un truc. Elles sont pas souvent gays, tes chansons.
Ah, celle-là, elle est gay. Quand tu l'as écoutée, tu parlais.
Oui, je parlais.
Oui.
Elle est gay.
Oui.
On peut pas faire de la radio puis l'écouter. Il faut quand même pas charrier.
Bah, ouais.
Faut bien qu'on sache pas de quoi on parle. Ça, on pourrait pas le dire.
Qu'il était drôle.
C'est une bonne réponse. Bravo Isabelle. Coluche a appelé Sardou le chanteur masqué, tellement ce dernier n'avait pas l'habitude de sourire quand il chantait. Ils ne se connaissaient pas spécialement, mais quand Coluche avait lancé les restos, Sardou avait fait un énorme chèque. Ils sont ensuite devenus amis. Et Sardou a chanté plusieurs fois, bien sûr, au Resto du Cœur en 89, en 98, 2004 et 2005.
Et je peux préciser qu'ils ont fait la première tournée des Enfoirés, parce que j'étais jeune journaliste.
Avec Véronique Sanson,
Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman.
Eddie Mitchell,
bravo. Quel rêve, et Michel Sardou.
Ouais. Bravo.
Vous voyez, ils s'entendaient bien après. Mmh. Ah, okay, c'était énorme.
C'était énorme. Voici pour vous, Isabelle, une question faune et flore.
La chanson du mammouth, c'est trop merveilleux, les animaux dégueux.
On va parler
catapoute. J'ai entendu catapoute.
Disparu il y a, selon les chercheurs, entre 10 000 et 4 000 ans. Le mammouth laineux pesait 4 tonnes en moyenne, mesurait 3 mètres de hauteur, une peau de 2 cm d'épaisseur, 10 cm de graisse, en plus une épaisse fourrure en laine. Il avait tout pour résister au froid de l'Arctique. Qu'est-ce qu'il avait d'encore plus étonnant pour contrer le froid ? Trois propositions.
Okay.
Des larmes tièdes pour éviter que son œil ne gèle. Ouais.
Des poêles capables d'emmagasiner la chaleur du jour pour se réchauffer la nuit. Ou un petit clapet au niveau des fesses pour éviter que le froid ne pénètre.
Ça nous fait beaucoup rire, le clapet, mais
est-ce que vous savez, bien pratique.
Est-ce que vous savez ce que
c'est bien pratique, Sophie.
Vous aimeriez avoir un clapet, peut-être.
Ah oui, pensez au clapet.
Et Sophie, les vaches, elles se noient par le trou du cul.
Oh. L'épaule aussi.
Non mais ouais, du bip. Absolument, ouais, si elles avaient des clapets, ben, elles se noiraient pas.
Et c'est un rapport avec le mammouth, donc.
Je sais pas, mais en tout cas.
C'est une info vérifiée, cette histoire de vache.
C'est
après
ça,
j'ai un petit doute, moi, quand même.
Se noient par le trou du cul.
Je vous assure, ça.
En Normandie, vous aviez abusé du calvados.
Non, mais vous verrez, vous allez vous renseigner.
Si, les poules aussi.
Revenons à mes propositions. Oui. Comment les mammouths luttaient contre le froid en dehors de leur épaisse fourrure en laine? Est-ce qu'ils avaient des larmes tièdes pour éviter que leurs yeux ne gèlent? Des poils capables d'emmagasiner la chaleur du jour pour se réchauffer la nuit? Ou un petit clapet au niveau des fesses pour éviter que le froid ne pénètre?
Non, je tiens juste à saluer l'incroyable information.
Tu me croyais
de
pas,
Caroline? Non, mais j'ai vérifié, c'est incroyable. Mais moi, les vaches et les chevaux ont la particularité de se noyer par l'anus. Leurs sphincters sont peu efficaces et si le cheval ou la vache n'a pas le temps de se préparer à une chute dans l'eau, en contractant le sphincter, l'orifice laisse entrer l'eau, alourdissant l'animal qui coule et se noie.
Je t'embouche un coin là.
Ah ben voilà.
Bon, bref, c'est bizarre, Isabelle, cette jolie chanson. Vous en êtes où alors, vous?
Alors, ben, moi, je dirais que c'est la deuxième, non? Ça me semble le plus cohérent. Le clapet, ça me fait beaucoup rire, mais vous avez présenté quelque chose d'étonnant. Alors, les larmes tièdes. Le clapet, j'y crois pas trop, là, comme ça, mais...
Mon avis, non. C'est un truc original, donc moi j'y crois.
Ouais, c'est pas très original.
J'ai jamais entendu parler de cette histoire de clapet.
Non,
mais...
les poils, c'est pas très original.
Non, puis non. On en a parlé juste avant dans la question, elle parle justement de sa toison, tout ça, donc à mon avis, c'est autre chose.
Le clapet.
Donc soit les larmes, soit le clapet, et le clapet, il y a quelque chose d'assez insolite. Dans cette émission, je crois que les gens qui préparent un petit peu tout ça,
ils sont pas normaux.
Aiment bien les trucs insolites. Moi, j'irais pas mal sur le clapet quand même.
Oui, on apprend beaucoup de choses, à mon avis, c'est le clapet, parce que justement, c'est surprenant.
Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait, Isabelle?
Eh ben, je vais valider la proposition, je vais écouter les copains. Et je vais valider la proposition du clapet.
Un clapet anal qui va fermer votre clapet, les amis et les copains.
C'est ça?
C'est une bonne réponse.
Ouais. Bravo Isabelle.
Clapet anal pour éviter les courants d'air. Concrètement, c'était un petit repli de la peau, une valvule qui permettrait de protéger cette zone très sensible. On a découvert cette excroissance quand on a trouvé des mammouths congelés. Isabelle a deux bonnes réponses. Voici le bluff Europe 1.
Vous
allez comprendre.
Dans univers.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Tu bluffes.
Le bluff.
Vous allez me le payer, ça. Je viens dans votre univers en parlant de la bière. Passer pour un soulard absolu.
Alors, vous allez comprendre. Je vais vous poser une question qui va concerner la bière, justement. Et les trois copains vont proposer une réponse. Et il faut qu'Isabelle démasque la bonne réponse parmi ces trois propositions. Et vous pourrez l'aider.
Ok.
D'accord. Oh, le blanc en l'antenne,
j'aime bien. Je vois pas, c'était pas une question.
Non. Vous pourrez l'aider.
Je pourrais l'aider.
Il va y avoir deux bluffs.
Sachez que la bière, c'est la troisième boisson la plus consommée du monde, derrière l'eau et le thé depuis plus de 5000 ans. Les Égyptiens en fabriquaient déjà avec de l'orge. Mais ceux qui ont réellement été à l'origine de la fabrication de la bière en Europe, ce sont les moines. C'est d'ailleurs pour cela qu'autant de bières portent le nom d'abbaye et ont un petit moine dessiné sur leur étiquette. Mais pourquoi les moines ont-ils eu un rôle aussi important dans l'histoire de la bière ? Caroline, quelle est votre proposition ?
C'est tout simplement le roi Charlemagne leur avait donné le monopole de la fabrication de la bière, au point qu'aujourd'hui, ils ont même une appellation contrôlée bière d'abbaye reconnue. Et ouais, me regardez pas comme ça, Soso. Il faut savoir que les moines avaient l'obligation d'offrir le gîte et le couvert aux voyageurs et aux pèlerins. La bière devint alors un symbole clé de leur hospitalité, tout en constituant malgré tout une source de revenus.
Il n'y a que la fin qui est vraie, Caroline.
Non, ouais, moi j'allais dire les pèlerins, parce que j'avais la même info.
Mais Sophie est tellement scotchée en ce moment, j'ai des idées. Je ne dis que des choses improbables, mais vraies, faut le savoir.
Vous savez toujours qu'elle raconte des histoires,
ouais, hein, comme
Caroline, elle est spécialiste. Donc pourquoi les moines ont-ils eu un rôle aussi important dans l'histoire de la bière? Tout simplement parce que les moines, vous imaginez bien, la vie monacale, elle est quand même assez austère, et puis surtout, ils sont souvent dans la modération, les moines, pour le coup. Mm-hmm. Et c'est parce qu'ils voulaient contrôler la consommation d'alcool des pèlerins et des voyageurs, justement, des membres de leur paroisse. Donc, ils se sont mis à la gérer eux-mêmes. Ils se sont dit, si on la gère, si on la fabrique, on pourra gérer également la consommation des autres. Parce que c'est eux qui la distribuent également. Donc, c'était finalement les premiers, on va dire, maîtres de la santé publique.
Moi, je te croirais presque.
Ça aide mais pas,
c'est totalement n'importe quoi.
Je suis journaliste, oui. Je suis la seule journaliste.
Mais non, ça aide pas les pèlerins s'ils boivent. Après, comment tu qui marches
hein. Eh ben voilà,
avec modération.
Non,
justement.
Vous racontez n'importe quoi, parce que c'est moi qui ai la vérité.
Mais pardonnez-moi, mais si vous proposez de la bière, tout en prétendant contrôler la quantité...
Oui.
Ça tient pas debout, il suffit de pas en proposer, puis les gens sont.
Oui, il fallait qu'il gagne un peu de sous.
N'a pas été très futé sur ce
coup-là. La vérité sort de la bouche des vieux enfants.
Ouais.
Alors, parce que les caves, c'est une évidence. Où est-ce que vous mettez votre vin, les filles? Dans des caves, parce que les caves des monastères étaient considérées comme le meilleur endroit pour fermenter la bière. Mais c'est une telle évidence, les enfants.
Ouais.
Je vois pas où est le problème.
Il a pas été chercher bien loin.
Pour fermenter la bière ou pour fermenter?
J'ai compris, fermenter.
Bah si elle a la cave, faut la monter.
Tu sais, ça fait 40 ans que je fais la radio et la télé, je m'exprime très très
mais
mal.
Mais est-ce que la bière se conserve déjà,
Bien sûr, mais c'est important, c'est évident, c'est comme le vin.
Ça n'a rien à voir avec le vin.
Pas très longtemps, mais en revanche, il faut le garder au frais. Donc forcément, bon, alors, les caves des monastères.
Okay. Isabelle, vous avez bien compris qu'il y a deux gros menteurs.
Pour Caroline, c'est parce que le roi Charlemagne leur avait donné le monopole de la fabrication de la bière. Pour Mélanie, parce qu'il voulait contrôler la consommation d'alcool des membres de leur paroisse. Pour Bernard, parce que les caves des monastères étaient considérées comme le meilleur endroit pour fermenter la bière. Que pensez-vous ?
C'est pas facile, hein. Je dirais la 1 ou la 3, qui me semble plus cohérent.
Isabelle,
qu'est-ce que tu dirais, Laurent ?
J'ai tendance à penser que Bernard Montiel ment comme il respire.
Et que Mélanie Gomez
s'est vraiment foutu de notre gueule. Donc voilà. Alors,
qu'est-ce que vous dites, Isabelle ?
Ma première impression, c'était la première.
La mienne. Vous avez bien raison. Enfin, je pense que vous avez bien raison.
Vous avez bien raison. Le roi Charlemagne le monopole de la fabrication de la bière. Charlemagne souhaitait développer la viticulture en France, mais aussi la fabrication de la bière. Et c'est aux moines qu'il va confier cette responsabilité. Les moines qui vont améliorer la production de bière en y ajoutant du houblon, par exemple, ou en ajoutant des ingrédients pour donner plus de goût, une tradition qui va être une source de revenus non négligeable pour les monastères.
Sophie Davant sur Europe 1.
On va jouer avec Isabelle au mot mystère. Si elle trouve une quatrième bonne réponse, elle pourra tenter un jackpot à 1100 euros. Écoutez bien. Ce petit bruit charmant, petit bruit va remplacer le mot qu'il faut que vous trouviez, Isabelle. Je vais vous faire trois citations et le petit mot sera illustré par notre poète national. À vous de trouver le mot qu'il remplace.
C'est un mot dans son univers, mais c'est pas bière, c'est ça ?
Non, ça n'a rien à voir avec la bière. Vous avez le droit de l'aider, Laurent, et de jouer avec nous si une idée vous traverse l'esprit.
Oui, mais si c'est moi qui trouve la solution, elle aura quand même droit au super bonus.
Ah bah oui, c'est vous qui trouvez
à
elle de valider ou pas. Alors voici la première citation, une citation de Jean Anouilh. Un vrai homme est son propre... Un vrai homme est son propre...
Il n'y a pas de rapport entre le nombre de poètes et le nombre de syllabes.
Son propre chef.
Un homme et son propre.
Et son propre
chef. Je sais pas, au pire.
Un vrai
pour
homme et son propre
ennemi.
Chef.
Je dirais ennemi.
Ennemi, ouais, j'allais dire ennemi.
Comment
ouais.
Ennemi, c'est bien. Ouais.
Ennemi. Ennemi, ouais.
Un vrai homme et son propre ennemi.
Oui, mais alors pourquoi vrai? C'est ça qui me chagrine. Un homme et son propre ennemi, oui, mais un vrai homme. Un vrai homme, ça doit être quelque chose de positif.
Normalement, son maître.
Bon, il y a d'autres propositions.
Il y a deux autres phrases.
Voilà, il y a deux autres propositions.
Bernard propose maître. Un vrai homme et son propre maître. Deuxième citation, Thomas Mann, ça vole très très haut aujourd'hui. Hein. Jean Anouilh, Thomas Mann, on rigole pas.
Non.
L'exemple, c'est tout ce qu'un peut faire pour ses enfants. L'exemple, c'est tout ce qu'un peut faire pour ses enfants. Ce qu'un parent... Alors, un parent, j'essaie. Ouais. Un vrai homme et son propre parent.
Ah oui, d'accord, ok.
Quoi ?
Bah, j'avais pas compris que le même mot allait dans les trois.
Oui, il y a un seul mot à trouver.
Alors, vous me proposez autre chose ?
Bon. Non, 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 je vous écoute.
Alors, non, Mélanie, juste qu'elle a compris la question.
Mélanie a proposé
père.
Un vrai homme et son propre père. L'exemple, c'est tout ce qu'un père peut faire pour ses enfants.
Ça, c'est pas mal.
Et la troisième, c'est une citation extraite d'une chanson de Céline Dion.
Oh, on va trouver direct.
Oh, je voudrais même sauver la terre, super. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père.
C'est ça, je suis sûr.
Bah oui, c'est évident.
Bravo, c'est ça.
Isabelle, qu'est-ce qu'on fait?
Bah oui, 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 c'est le père.
Donc je bloque cette réponse.
Oui, c'est le titre de la chanson.
Et c'est la quatrième.
Ouais, bravo.
Et pourquoi?
Vous m'avez beaucoup aidé, hein, merci beaucoup.
Voilà, surtout Mélanie en l'occurrence. Ouais. Vous allez être confrontée à un drôle.